Chapitre 17. Charcot avait tenu à déjeuner en famille avant de prendre la route. On était samedi, les jumeaux n'avaient pas école et voulaient visiter le zoo de Vincennes dans l'après-midi. Lucie allait s'y coller. Franck embrassa tendrement ses enfants, puis son épouse. Celle-ci ne lui reprocha pas ce qui ressemblait à une fuite. Pas difficile de comprendre qu'il faisait tout pour s'éloigner de l'ambiance mortifère qui régnait à Paris en s'accrochant à ses obsessions. De toute façon, quoi qu'elle dise, elle ne le ferait pas changer d'avis. Il arriva à Auxonne aux alentours de 17h, une heure et demie plus tard que prévu à cause des bouchons sur la 4. Il avait embarqué des vêtements au cas où il n'aurait pas le courage de faire le trajet en sens inverse de nuit. Une question qu'il ne se serait pas posée autrefois, mais avec sa carcasse vieillissante. Après une halte à la pompe de l'Intermarché, où, profitant de faire le plein, il montra une photo d'Emma au guichetier, qui ne la reconnut pas, Franck prit la direction de Breuzillé, un bled à cheval entre les départements du Jura et de la Haute-Saône. Une poignée de maisons et un cimetière s'y battaient en duel. Les paysages s'étiraient, les couleurs automnales se déversaient sur les terres brunes, pareilles à une coulée d'or. Les derniers kilomètres se firent à travers les champs, le long d'une rivière qui portait le charmant nom d'Oignon. Plus loin, sur l'horizon, s'étendait une forêt dont la lisière s'assombrissait au fur et à mesure que le soleil basculait vers l'autre hémisphère. Charcot passa devant un gîte composé de coquets chalets individuels. Il tenait là son probable point de chute pour la nuit. D'un coup, les édifices religieux lui apparurent, semblant jaillir d'un autre siècle. L'église abbatiale le frappa en premier, monumentale, si puissamment ancrée au sol qu'elle donnait l'impression d'être un élément minéral né aux origines du monde. Même s'il était subjugué, Charcot ne croyait plus en Dieu. Ses convictions s'étaient envolées des années plus tôt, quand les filles de Lucie avaient été enlevées et retrouvées mortes, assassinées par le pire des monstres. Leur couple, à peine formé, avait alors volé en éclats. Mais Charcot s'était battu de toutes ses forces pour garder une place dans le cœur de Lucie, et il avait gagné. Mais quel dieu pouvait arracher de tels êtres innocents à leur mère? Quel dieu allait cueillir aujourd'hui une femme enceinte qui avait passé une partie de sa trop courte vie à tenter d'endiguer la violence? Charcot voyait trop de crasse chaque jour pour entrer dans une église et réciter des prières. Si Dieu existait, alors il manquait de temps pour veiller sur toutes les âmes. N'empêche qu'il frissonna quand, tel un souffle invisible, des chants s'élevèrent dans l'obscurité. Des voix pures, à la fois fortes et douces, graves et cristallines. Elles portaient tant que, avec des conditions météo favorables, on les aurait sûrement entendues jusqu'au village le plus proche. Sans connaître grand-chose aux ordres religieux, Franck savait juste que la vie des moines, quelle que fût leur congrégation, était faite de labeur et de prière. D'après ses maigres recherches, les occupants des lieux gagnaient leur pitance grâce à l'agriculture, à la récolte des miscanthus, une espèce de roseau, et grâce à l'usine d'électrolyse qu'il avait d'ailleurs aperçue sur l'aile ouest de l'abbaye. L'entreprise, dont l'activité était d'enrober des pièces métalliques d'un revêtement grâce au courant électrique, avait été créée par la communauté dans les années 30, afin de générer les ressources nécessaires pour faire face aux travaux de construction ou d'entretien des bâtiments religieux. Il sonna à l'imposante porte en bois. Il fallut plusieurs minutes avant qu'elle ne s'entrebâille et qu'une silhouette ne s'y dessine. Une face de lune. Les verres de ses lunettes, épais, faisaient de ses yeux deux grandes soucoupes. Et il était vêtu de l'habit traditionnel, robe blanche et scapulaire noir, avec une ceinture en cuir.
« Oui ?»«
Je suis commandant de police. J'aimerais parler au responsable de cet endroit. » L'homme perdit illico son sourire et le scruta, méfiant.
« Je vais voir si l'abbé François peut vous recevoir. Entrez. »
Franck s'exécuta et le moine referma derrière lui, puis l'abandonna dans un vestibule austère orné d'une simple croix. Un froid mordant le saisit, et le policier eut l'impression que la température n'était pas la seule responsable du frisson qui le parcourut. En même temps, il se rendit compte que les chants s'étaient tus. Des portes claquaient, et quelque part des pas résonnaient. Charcot imaginait les moines marcher sous les voûtes en silence et par deux, les yeux à demi cachés sous leurs capuches. L'attente s'éternisa avant qu'un autre homme ne se présente. Plus âgé que le premier, plus grand aussi. Son épaisse barbe poivre et sel, ses sourcils broussailleux et ses lunettes à monture ronde lui donnaient un air de bibliothécaire.
« Je suis le père François. Il est tard pour une visite. Nous allions passer à table. Montrez-moi votre carte, s'il vous plaît. »
Le ton était sec. On ne perturbait pas l'ordre de sa congrégation sans motif valable. Franck n'eut donc pas le choix et lui tendit sa carte tricolore que son interlocuteur scruta avec attention.
« Vous ne devriez pas être deux ?»«
Pourquoi deux ?»«
Que voulez-vous ?»
Franck lui montra une photo d'Emma sur son téléphone. « Je recherche activement cette jeune femme. » Aussitôt, un éclat scintilla dans le regard bleu acier de l'ecclésiastique. Aucun doute, il l'avait reconnue. Dans le même temps, ses traits se décontractèrent, comme si la raison de cette intrusion lui enlevait un poids de la poitrine.
« Elle est venue ici, en effet. Votre carte indique que vous travaillez à la police criminelle de Paris. Vous avez fait beaucoup de routes. Il lui est arrivé quelque chose de grave ?»«
C'est ce que je tente de savoir. Elle n'a plus donné signe de vie depuis le mois d'août, et j'ai découvert que, avant ça, elle vous avait, selon toute vraisemblance, rendu visite à plusieurs reprises. J'aimerais savoir pourquoi. » Le moine médita les propos de Charcot, puis poussa le lourd battant derrière lui.
« Marchons un peu, si vous le voulez bien. Cela vous réchauffera, vous semblez transit froid. Vous comptez repartir vers la capitale ce soir ?»«
J'ai vu une sorte de gîte à 2 kilomètres à peine, si besoin. » »«
Des cabanes au bord de la forêt. C'est là qu'Emma passait systématiquement la nuit. Vous n'aurez pas de mal à y trouver une chambre. Il n'y a pas foule en cette saison. »
Ils empruntèrent des couloirs sombres où chaque son était amplifié. Par une ouverture, Charcot aperçut le réfectoire, flanqué d'une longue table sur laquelle un religieux installait des assiettes en silence. Pour rien au monde, il n'aurait vécu dans un tel endroit, mais il pouvait comprendre cette quête d'une vie simple et spirituelle, loin du fracas du monde.
« Je me souviens bien de ce moment où, comme vous, Emma a frappé à la porte pour la première fois. C'était début avril. Une femme profondément croyante. Nous avons eu d'emblée une discussion passionnée sur l'âme, sur la survivance de l'esprit au corps lorsque sonne la dernière heure. Emma m'a fait part d'une très belle image pour représenter ses convictions. Une image qui m'est restée en tête et que j'aime partager depuis avec les oreilles attentives. »
« Je vous écoute, mon père. »
« Elle racontait que les forces du vent se matérialisent sur l'eau sous forme d'ondes, mais qu'elles ne dépendent pas de l'eau pour exister. C'est juste que, sans la surface liquide, on ne les voit pas. Selon elle, c'est la même chose pour l'âme. Le cerveau lui permet de s'exprimer, mais quand le cerveau n'est plus, l'âme est toujours là, pareil au vent. Et elle attend son jugement, l'enfer, le paradis. » Vous voyez ?
Aussitôt, le souvenir d'Audra branché aux machines revint à Charcot. Il voyait son visage reposé, ses paupières closes, comme si elle dormait. Où était son âme ? Le policier avait beau être rationnel, il ne pouvait nier que certains phénomènes demeuraient inexplicables. Le spiritisme, les esprits, les communications avec les défunts.
Pourquoi est-elle venue vous voir ? Demanda-t-il. Elle souhaitait rencontrer David Nebraza.
Qui est-il ?
David Nebraza était un artiste contemporain, athée au dernier degré, totalement fasciné par la mort. Elle était son obsession. Dans le passé, il a beaucoup fait parler de lui avec ses collections de photographies très particulières. Bébés morts-nés, têtes d'animaux décapités. Il y a même eu cette série glaçante sur des cadavres qu'il mettait en scène dans des classes d'école comme des élèves attentifs à un cours macabre. Il faisait cela à l'étranger pour des raisons de législation.
Les deux hommes avaient atteint un cloître orné de vitraux par lesquels seuls filtraient les ténèbres à cette heure. Le père François glissa ses mains dans les manches de sa robe. Ses traits exprimaient douceur et dureté à la fois. Il s'attaquait aussi par ses actes obscènes et blasphématoires à la religion, poursuivit-il. Un moyen de heurter les consciences, de signifier, par la violence de l'art, que la mort est la fin brutale, irrévocable et instantanée de la vie. Quel que soit l'âge, l'espèce ou l'époque, que l'on soit croyant ou pas, elle nous saute à la figure et nous touche tous de la même façon. C'est alors qu'ils croisèrent un moine qui marchait à contresens et murmurait entre ses lèvres. Le frère ne releva même pas la tête à leur passage.
Il est allé de plus en plus loin dans sa quête, toujours prêt aux expériences les plus extrêmes, dans le seul but de côtoyer la mort de près. Certaines vidéos sont encore sur son site, filmées bien avant son arrivée parmi nous. On le voit par exemple s'ouvrir les veines et se vider de son sang, allongé, les bras en croix, sur un grand drap blanc. Une performance, comme ils appellent ça. Et il y a un public pour ses folies.
Il tourna son visage de pierre vers Charcot.
L'art a toujours eu une mission civilisatrice. Susciter la réflexion, instruire, y compris sur les sujets les plus délicats. Prenez Rembrandt, Géricault et même Léonard de Vinci. Tous ont représenté, à un moment ou à un autre, leur vision de la mort. Mais aujourd'hui, on est dans l'outrance, l'exhibition, la surenchère. On marque les esprits avec la violence.
Vous prêchez un convaincu.
Les œuvres de ces gens ne dialoguent qu'avec la part obscure de chaque individu. David était dans ce courant-là, au summum de la provocation et du triomphe de l'immonde. Mais on ne joue pas avec la mort.
Franck observa une statue de la Vierge, puis bifurqua vite dans les pas de l'abbé. Vous parlez de David au passé. Serait-il allé trop loin dans ses performances?
Aucunement, mon fils. David Nebrasin est aujourd'hui ici, parmi nous.